Et oui, chers auditrices et auditeurs de Radio Maria, nous partons aujourd'hui en région parisienne, à Argenteuil, rejoindre le père Guy-Emmanuel Clariot, donc recteur de la basilique d'Argenteuil. Pouvez-vous vous présenter, père?
Alors bonjour à tous, je suis le père Guy-Emmanuel Clariot, je suis prêtre du diocèse de Pontoise. J'ai été ordonné prêtre en 1996. Et depuis 2015, je suis le recteur et le curé de la basilique Saint-Denis à Argenteuil, dans le Val d'Oise. On est ici à 7 km de Paris, donc c'est vraiment tout proche. On est dans une banlieue un peu difficile, qui a été longtemps une banlieue communiste et aujourd'hui est très marquée par la diversité culturelle et une forte présence de l'islam, mais aussi une forte présence de la basilique, hein, qui est un peu le monument le plus haut d'Argenteuil. Et puis dans la ville, la communauté des pèlerins est forte. Et c'est un beau signe aussi, je trouve, à donner au cœur de nos banlieues.
Eh bien justement, donc, on va vous demander donc de nous partager, de nous retracer un peu l'historique de cette basilique qui est présente à Argenteuil. Alors Argenteuil, pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est une ville de 100 000 habitants, et donc dedans, il y a cette belle basilique.
Voilà, alors c'est un peu plus que 100 000 en fait, mais ça fait d'Argenteuil la troisième ville d'Île-de-France, après Paris évidemment. En termes de population, donc c'est une grande ville avec plein de quartiers différents et dans le centre un peu historique, la basilique. Alors l'histoire de la basilique, c'est une histoire assez courte puisqu'elle date de 1866. Elle a été construite sur l'emplacement de l'ancienne église paroissiale, qui était une belle église mais très ancienne et qui menaçait un peu ruine. Donc à l'époque, la municipalité avait décidé la construction d'une grande église qui n'a pas été basilique tout de suite. Elle a été basilique à la fin du 19e siècle, quand le pape Léon XIII a permis qu'elle soit basilique mineure. Donc, vous savez, quand une église est élevée au titre de basilique, c'est en général qu'il y a des pèlerinages ou le souvenir d'un saint ou des reliques particulières qu'on veut ainsi honorer. Et la basilique, elle est aux armes du Saint-Siège. Et donc, ça dit aussi une proximité du Saint-Père avec la piété populaire liée au premier étage un peu de la foi. Et donc, la relique qui est ici, c'est ça qui fait l'âme un peu de la basilique, c'est la tunique de Jésus-Christ. On en reparlera tout à l'heure sans doute. Pour terminer sur la basilique, donc c'est une grande église néo-romane qui a été construite par l'architecte Balu, qui a fait beaucoup d'églises à Paris. Elle a d'ailleurs quasiment son double à Paris. C'est une belle église néo-romane. Avec un chœur très large qui permet de belles célébrations. Il y a aussi tout un cheminement prévu un peu pour les pèlerins. Et quand on a des grands pèlerinages, ce qu'on appelle les ostensions, bah, voilà, il y a des dizaines de milliers de personnes qui peuvent passer chaque jour. Et voilà, l'église est vraiment conçue pour ça. Elle est aussi ornée d'un très bel orgue qui fait un peu la gloire aussi de notre basilique.
Alors, il y a une particularité donc à Argenteuil pour les historiens, c'est qu'à ma connaissance, c'est une des seules basiliques où il est écrit liberté, égalité, fraternité, parce que la ville a participé à la construction.
Oui, alors là, il y a plusieurs légendes urbaines qui existent. Donc, on a dit effectivement, ça c'est la réalité, que ça a été construit sur le fond de la municipalité d'Argenteuil. Avant la séparation de l'Église et de l'État, hein, puisque c'est en 1866. Et donc, à cause de cela, on aurait marqué liberté, égalité, fraternité. Alors, j'ai retrouvé des photos des années 1890 sur lesquelles ce n'était pas marqué, en fait. Donc, je m'inscris un peu en faux contre cette légende. Je pense davantage que ça a dû être mis après la loi de séparation. On a eu des municipalités assez radicales socialistes à l'époque. C'était un peu la guerre entre le clergé et un certain nombre d'hommes politiques. Au moment de la loi de séparation, Je pense que ça date de cette période-là, mais il y a pas mal de mystères autour de cette inscription.
Alors maintenant qu'on a parlé du lieu, la basilique, où vous êtes bien sûr les bienvenus, maintenant on va parler de la Sainte Unique, car la basilique a la Sainte Unique de Jésus.
Eh bien oui, c'est fou. C'est quelque chose d'assez inouï. Je passe tous les jours devant la tunique que portait Jésus pendant le chemin de la croix. C'est la tunique dont parle l'évangile selon saint Jean au chapitre 19, versets 23 et 24. Je laisse les auditeurs aller regarder, mais voilà, c'est ce moment important où, vous savez, après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils se partagèrent ses vêtements en quatre parts et la tunique, eh bien, ils la tirèrent au sort. Ça sert à rien de se diviser une tunique en quatre, donc ils la tirent au sort. Et saint Jean nous dit que donc il était là, et témoin de la scène. Et il nous dit aussi que c'était une tunique sans couture, tissée du haut vers le bas. Donc on peut s'étonner, je trouve, de cette avalanche de détails, alors que trois versets plus loin, Jésus meurt. Et on sait que dans l'évangile selon saint Jean, la croix, c'est ce qu'on appelle l'heure de Jésus. Vous vous souvenez quand Jésus, au commencement de l'évangile, avait dit à sa mère, aux noces de Cana, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Et puis plusieurs fois, dans l'évangile selon saint Jean, il parle de son heure. L'heure, c'est l'heure de la croix. C'est l'heure où il va révéler tout ce qu'est Dieu, en fait. Dieu est amour. En fait, c'est une autre manière de le dire. Mais c'est sur la croix que tout va être révélé, que la victoire est acquise. Et on peut se demander pourquoi, trois versets avant, on nous parle des vêtements de Jésus. Objectivement, quel est l'intérêt? Alors, il y a deux intérêts. Le premier, et saint Jean le note lui-même, c'est que ça accomplit les Écritures, et le psaume 21 le dit, ils ont tiré au sort ma tunique, ils ont partagé mes vêtements. Donc, saint Jean aime bien montrer, comme d'autres évangélistes, que ce que Jésus accomplit, ça accomplit les Écritures et les annonces prophétiques. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ma petite thèse à moi. Donc aucun auditeur ne doit se sentir lié par ça. Mais j'avoue que depuis que j'y ai pensé, ça éclaire beaucoup de choses. Si on tourne la page, on se retrouve au chapitre 20. Au chapitre 20, on a la résurrection. Saint-Pierre et Saint-Jean courent au tombeau. Saint-Jean arrive le premier, Saint-Pierre ensuite, et puis ils rentrent tous les deux. Et là, on nous parle de quoi? On est à l'aube des temps nouveaux, c'est la résurrection, une ère nouvelle commence, et on nous parle des linges funéraires, en disant, ben, le suaire était plié dans un sens et le linceul dans l'autre. Alors, ma petite thèse à moi, c'est que à propos de la tunique, à propos du linceul et à propos du suaire, saint Jean écrit à des communautés chrétiennes, vers la fin du premier siècle, à des communautés qui déjà connaissent l'existence de ces trois reliques et qui déjà, d'une manière ou d'une autre, les vénèrent. Voilà. Et je trouve que ça éclaire beaucoup les choses. Sinon, pourquoi nous parler de cela? Pourquoi nous dire qu'elle est sans couture, tissée du haut vers le bas? C'est des détails vraiment insignifiants par rapport à ce que Jésus est en train d'accomplir sur la croix où il. Voilà, Dieu est rejeté de l'humanité. Enfin, mais par amour, il se laisse fixer au bois rugueux de la croix pour révéler vraiment, et voilà, la révélation du côté ouvert d'où jaillissent le sang et l'eau. C'est ça l'heure de Jésus. Et c'est inutile de parler des vêtements funéraires. Nous-mêmes, quand on a perdu des gens qu'on aimait, au bout d'un moment, on ne se souvient plus comment ils étaient habillés, parce que ça n'a aucune importance. Donc là, c'en a une. Pour accomplir les Écritures, et puis je pense parce que les communautés chrétiennes auxquelles Jean écrit connaissent l'existence de ces trois reliques.
Pour approfondir nos connaissances, pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de l'arrivée de cette sainte tunique à Argenteuil et aussi son sens marial?
Alors, je vais commencer par la seconde question, le sens marial. Il est tout à fait attesté dans l'histoire, par les historiens, les historiens de la grande histoire, mais aussi les historiens de l'artisanat, etc., que dans les milieux modestes, en tous les cas, les mamans tissaient elles-mêmes les vêtements et les tuniques de leur enfant. Donc, évidemment, nous nous saisissons de cela parce que ce n'est pas n'importe quelle maman, c'est la Sainte Vierge. Et je vous raconte une petite anecdote. En 2015, j'ai fait refaire le tissu de support sur lequel la Sainte Tunique est fixée. Le tissu de support précédent datait de 1892 et il était complètement cuit. Et donc, il fallait vraiment le changer pour l'ostension de 2016. On l'a fait refixer sur une étamine de laine marron, voilà. Et j'ai eu l'occasion, pendant le travail de restauration, de m'approcher maintes fois de la Sainte Tunique, de la toucher, de la regarder de très près. Et j'ai... Alors, c'est un tissu très endommagé, hein. Il y a eu des découpes, il y a eu des trous, etc. Mais enfin, il y a quand même des morceaux entiers qui n'ont pas trop bougé. Et je m'extasie un peu devant la régularité de la chaîne et la trame qui sont à 90 degrés, enfin, comme il se doit. Je me dis, wow, quel travail bien fait. Et puis, réfléchissant moi-même, je me dis, c'est normal, c'est la Sainte Vierge qui l'a fait quand même. Hein. Donc, elle ne peut faire que des belles choses. Donc, c'est vrai qu'on, dans la tradition argenteuillaise, on vénère aussi dans la Sainte Tunique une relique mariale, c'est-à-dire une relique du travail de la Sainte Vierge. Alors, on n'a pas d'attestation scientifique là-dessus, hein, mais il y a une haute probabilité de cela. Et j'aime bien aussi penser, puisque la tunique est aussi le symbole de l'Église une, indivise, puisqu'elle est sans couture, j'aime bien penser que Marie tisse aussi l'unité de l'Église, le vêtement qui recouvre l'Église. Enfin, il y a un certain nombre de thèmes qu'on peut tirer de cette dévotion en fait ancienne à Argenteuil. Et votre première question, c'était sur le mode d'arrivée de la tunique. Alors, c'est une
Absolument,
histoire,
oui, c'est important.
c'est un vrai roman policier. Hein, dans les premiers siècles, donc on pense que la tunique a été rachetée tout de suite aux soldats qui l'avaient remportée au dé. Donc peut-être par Saint-Pierre, peut-être par Marie, peut-être par Saint-Jean. On enterre. Et voilà, et qu'elle a été remise. Ensuite, on a un gros blanc historique. On ne sait pas du tout comment la tunique a été cachée. Voilà, c'est l'histoire aussi un peu en filigrane des débuts de l'Église. Hein. C'est quand même une histoire avec plein de trous parce que par manque de pièces à conviction, si je puis dire, sachant que jusqu'au début du IVe siècle, l'Église vit dans un état de persécution. Pas pendant 4 siècles, mais régulièrement, il y a des persécutions. Donc, il y a très peu d'églises construites. Il n'y a pas de. Quand on parle de tel homme qui était évêque et tout ça, il ne faut pas imaginer un évêque dans un évêché avec une cathédrale et tout ça. Tout ça se vit de manière très domestique et secrète. Donc, très peu de pièces historiques aussi à utiliser. Bref, en tous les cas, cette tunique fait des apparitions, si je puis dire. On pense qu'elle est cachée à Jaffa, puis retrouvée au 5e siècle. Une procession la ramène à Jérusalem. Et puis, on sait qu'au 7e siècle, il y a deux invasions très importantes en Terre Sainte. C'est les invasions perses et les invasions musulmanes. À l'une ou à l'autre de ces invasions, parce que les reliques sont systématiquement détruites ou prises en otage pour être monnayées ensuite contre espèces sonnantes et trébuchantes. Mais on pense que la Sainte Tunique a dû être évacuée à ce moment-là vers la terre chrétienne la plus proche, qu'est Constantinople. Une autre tradition dit que Sainte Hélène l'aurait récupérée et peut-être transmise à Constantinople à ce moment-là. Ça reste à prouver, en fait. Bref, en tous les cas, on se retrouve à la fin du 8e siècle, hein, vers l'an 900, vers l'an 800, pardon. L'impératrice Irène de Constantinople voit son empire très fragilisé, d'abord par des querelles intestines qui n'arrêtent pas, et puis aussi par les razzias musulmanes sur les marches de l'Empire, c'est-à-dire pas très 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 loin de Constantinople quand même. Et elle se tourne alors tout naturellement vers la puissance montante de l'époque, qui est Charlemagne. Enfin, Charlemagne vient d'être couronné empereur en 800, et lui, il est plein de force. On a du mal à imaginer ce qu'est l'Empire carolingien, mais c'est quand même un empire extrêmement puissant. Et donc, elle envoie des ambassadeurs. Alors, là aussi, il y a plusieurs théories. Il y en a une qui dit que le pape aurait aimé que Irène veuve, se marie avec Charlemagne veuf pour faire un seul empire. Bon, alors en fait, Irène était une femme quand même un peu particulière, qui a, je crois, crevé les yeux de ses deux garçons. Il y a eu des querelles de succession et elle n'a pas duré longtemps sur le trône de Constantinople. Bref, elle a quand même eu le temps d'envoyer des ambassadeurs. Et avec les ambassadeurs, il y avait ce qu'on appelle toujours des cadeaux diplomatiques. Et c'est des sources en général magnifiques pour l'historiographie parce que, en général, ça arrive au palais du roi et tout ça. Donc, il y a toujours des notaires qui notent un peu ça. Donc, dans les sources historiques, les cadeaux diplomatiques sont très importants. Et donc, il y a eu à ce moment-là le don de la Sainte Tunique. Et Charlemagne, qui est un grand chrétien, qui connaît bien l'Évangile selon saint Jean, sait exactement de quoi il s'agit quand il reçoit la tunique sans couture dans son palais à Aix-la-Chapelle. Voilà. Et Charlemagne va faire présent de cette relique extraordinaire à sa fille Théodrade, qui est religieuse à Argenteuil. Et à partir du 12 août 800, alors on n'est pas tout à fait sûr du millésime, c'est entre 800 et 812, mais en tous les cas c'est le 12 août à 13 h, la Sainte Tunique arrive à Argenteuil. Et donc commence pour la Sainte Tunique son histoire argenteuillaise.
Alors, ce qui est important, et ça complète ce que le père vient de dire, c'est et l'importance pour la ville de la Sainte Tunique, sa présence sur le blason de la ville.
Eh ben oui, parce que c'est ce que je vous dis, elle est vraiment devenue argenteuillaise et elle a beaucoup compté d'ailleurs dans le développement de la ville parce qu'il y a eu des pèlerinages, des grands pèlerinages. Donc, qui dit pèlerinage dit hôtellerie, dit magasin de souvenirs, dit auberge, etc., etc. Pensez à Lourdes aujourd'hui. Voilà, il y a tout ça. Au XVIe siècle, le roi François Ier a autorisé la ville à se fortifier. À cause ou grâce à la Sainte Tunique pour la protéger aussi. Donc voilà, les Argenteuillers de souche y sont très très attachés. Oui.
Alors, Père, pouvez-vous évoquer, avant de parler de la prochaine, pouvez-vous évoquer les différentes ostensions, en particulier celle de 2016?
Alors effectivement, tout au long de l'histoire de la Sainte Tunique. Donc, il y a la première grande ostension qui est en 1156, en présence de 7 ou 8 évêques, archevêques, du roi de France, etc. On a retrouvé la Sainte Tunique dans un mur de l'abbaye d'Argenteuil. Bref, ouais. Donc il y a un grand concours de gens. Et puis, au cours de l'histoire, régulièrement, la tunique va être déployée, dépliée de son reliquaire pour être montrée aux fidèles. Et à chaque fois, c'est l'occasion de rassemblement de centaines de milliers de personnes. Voilà. Alors, à la Révolution française, il s'est passé quelque chose dont je dois parler maintenant, parce que sinon on ne comprend pas la suite. Sous la pression, sans doute, pendant la Terreur, sous la pression révolutionnaire, mon prédécesseur, le curé, Osée, il s'appelait Osée, a découpé la tunique en plusieurs morceaux, de manière à en sauver au moins un bout. Alors, je lui en veux un peu parce que c'est la tunique sans couture, qui n'est pas déchirée, et tout ça. Elle a été découpée. Donc, c'est quelque chose d'un peu douloureux. Bref, elle a été remontée après la Révolution et en 1892, refixée sur un tissu en forme de tunique, puisque pendant tout le XIXe siècle, elle est restée en plusieurs morceaux dans le reliquaire. Donc, il y a eu une grande ostension en 1894, et puis en 1934, et puis en 1984. Et puis, donc, c'était un peu tous les 50 ans, même si cette loi, n'a pas grand sens, je trouve. Elle devait être exposée en 2034, mais l'évêque de Pontoise, Mgr Lalanne, de manière à fêter les 50 ans du diocèse de Pontoise, les 150 ans de la basilique et puis l'année de la Miséricorde, a décidé en 2016 de faire une ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique. Donc, il m'a nommé à Argenteuil pour cela, et pour devenir aussi le curé de la paroisse, mais aussi pour organiser cette ostension. Je n'ai eu que 6 petits mois pour m'en charger, et ça a été difficile. Pourquoi? Parce que la dévotion à la Sainte Tunique avait presque entièrement disparu. Et donc, il a fallu tout dépoussiérer, concrètement dépoussiérer, et puis surtout recommencer à parler de la Sainte Tunique. Donc, j'ai fait beaucoup d'interviews, on a fait ressortir plusieurs livres ou brochures, et puis on a invité pour une ostension commençant le Vendredi Saint 2016 et durant 17 jours en tout. Et en fait, c'était un immense succès. En fait, il y a 220 000 personnes qui sont venues en 17 jours. Je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques qui sont venus, et je pense que tout le monde est reparti avec une grâce particulière qui a vraiment été donnée à ce moment-là. Et donc, c'était bon, un grand moment de ma vie personnelle, en tous les cas, de pouvoir être témoin et acteur aussi de cette ostension. On a 24 évêques qui sont venus, 5 cardinaux. J'étais heureux que tout le monde, évêques compris, que tout le monde vienne s'agenouiller en silence devant la tunique de la Passion, parce que voilà, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Alors, c'est pas un dessin, c'est un vêtement, mais vous voyez, cet objet nous plonge au cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire la rédemption. C'est le thème qu'on avait choisi en 2016. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et le thème qu'on va choisir pour la prochaine ostension en 2025, c'est Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Ben voilà, chacun peut faire cette expérience devant la Sainte Tunique. Moi, je veux convaincre personne. J'ai un certain nombre d'éléments d'authenticité de la Sainte Tunique à mettre en avant, mais j'ai envie de dire, venez et voyez et laissez-vous toucher par la grâce propre de cette relique.
Pour rappeler le sens des ostensions, et on est à la préparation, on est là en Semaine Sainte, pouvez-vous nous faire une petite catéchèse sur le lien que l'on peut faire entre la Sainte Tunique et le Triduum pascal?
Ah ben, le lien est archi simple, parce que au moins jusqu'au Vendredi Saint, mais même après, parce que quand on parle de la tunique d'Argenteuil comme la tunique de la Passion, mais c'est quoi la Passion? C'est pas seulement le Golgotha. Quand hier, à la fête des Rameaux, on a lu la Passion selon saint Marc, ça commence avec les préparatifs du repas pascal. Donc, voilà, les préparatifs du repas pascal. Ensuite, parce que Jésus ne s'est pas changé, hein, il porte. Si on prend les choses dans l'ordre inverse, il portait cette tunique pendant le chemin de la croix. Il portait cette tunique pendant que Pilate l'a condamné à mort. Il portait cette tunique quand il a comparu devant le grand Sanhédrin, devant Anne, Caïphe. Il portait cette tunique pendant l'arrestation. Il portait cette tunique pendant l'agonie à Gethsémani, quand Jésus vit ce trouble intérieur très dur au jardin des Oliviers. Il portait sa tunique pendant l'institution de l'Eucharistie. Donc vous voyez, le lien avec le Triduum, il est clair et net. Hein. Et puis, pour ce qui concerne la période après la croix, parce que on lui enlève le vêtement, Jésus est crucifié quasiment nu, en fait. Hein. On lui enlève la tunique avant de le crucifier. Mais, alors ensuite, les Écritures ne nous aident plus là, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'aime bien imaginer le Samedi Saint, la Sainte Vierge en train de prier à l'intérieur de sa maison avec la tunique sur les genoux et sentir aussi combien le sang encore présent sur cette tunique est le sang de la rédemption. Et voilà, j'aime bien penser à ça. Alors c'est vrai que les Écritures n'en parlent pas, donc c'est pas du même ordre. Mais en tous les cas, pour ce qui concerne le jeudi et le vendredi saint, bah, la Sainte Tunique est un signe extraordinaire qui nous est donné. Hein. Voilà, quand on est devant, on est devant la rédemption, en fait.
Alors, chers auditrices, auditeurs, à vos agendas, donc la prochaine ostension est du 18 avril au 11 mai 2025.
Exactement. Donc, je pense que Radio Maria et puis un certain nombre d'autres médias chrétiens, évidemment, en parleront bien en amont. On aura sans doute pour les groupes des inscriptions et tout ça. Donc, on travaille d'arrache-pied dès maintenant. C'est encore dans, je ne sais plus, 390 jours, je crois. On travaille d'arrache-pied dès maintenant. Au niveau du mécénat, au niveau de la communication, on essaye de bâtir un beau programme aussi. Il y aura aussi une particularité de cette ostension qui concernera un moment précis, sans doute un soir des 23 jours que durera l'ostension, mais ce sera aussi le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Alors peut-être que les auditeurs savent pas ce que c'est, mais c'est la première.
325, oui.
Voilà, c'est la première profession de foi de l'Église. Donc on dit croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et c'est une profession de foi qui est commune aux églises chrétiennes, catholiques, mais autres aussi, orthodoxes, réformées, etc. Et puisque la tunique, depuis Saint-Cyprien de Carthage, est vraiment le signe de l'Église une, je pense qu'on aura un événement œcuménique pendant cette ostension. Je ne sais pas du tout encore quelle forme ça prendra, mais je dis c'est beau. Enfin, on a de la chance, hein, nous chrétiens, de pouvoir fêter des anniversaires aussi anciens, 1700 ans, c'est énorme, ça donne le vertige, mais justement, quelle bénédiction aussi d'avoir eu la foi de Nicée complétée à Constantinople, hein, c'est le credo qu'on dit le dimanche à la messe, hein, Nicée-Constantinople. Voilà, de pouvoir replonger dans nos racines, le faire devant la Sainte Tunique, c'est magnifique.
Cher Père Guy-Emmanuel, avant de vous demander de terminer cette émission par une prière, je vais donner deux informations pratiques. Tout d'abord, l'ouverture de la basilique, c'est tous les jours de 8 h à 20 h. Et également, donc, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs votre site internet?
Alors, pour être tout à fait franc, le site internet est en réfection pour l'instant. On est en train justement de le préparer pour l'ostension de l'année prochaine. Le site internet, l'adresse existe déjà, c'est sainte-tunique.com. Sainte-tunique, tout attaché, .com. Il y aura toutes les informations. Vous pouvez déjà aller le voir. La plupart des infos datent de 2016, donc il va être complètement refait. Mais il y a déjà tout un tas de méditations. On n'a pas beaucoup parlé avec vous des éléments d'authenticité historique, mais il y a beaucoup de choses justement qui en parlent sur ce site. Donc, faut pas hésiter à s'y reporter. Pour déjà pouvoir découvrir beaucoup de choses. Il y a aussi un livre qui s'appelle La Sainte Tunique du Christ, qui est du père Le Quéré aux éditions Arthège, qui est un livre vraiment exceptionnel, qui a été écrit par un prêtre du diocèse de Pontoise. C'est vraiment un très beau. Un très très beau témoignage. Il y a aussi une belle émission de KTO qu'on peut trouver sur YouTube et qui donne aussi énormément de renseignements. Donc voilà, Internet est une belle source de renseignements sur la Sainte Tunique. Donc que les auditeurs n'hésitent pas à s'y rendre. Et puis je pense qu'on peut. On peut aussi prier avec
Oui, on va juste annoncer.
venir à la basilique aussi. Faut pas hésiter de venir à la basilique qui est vraiment ouverte tout le temps. On peut passer sous la Sainte Tunique. Il y a un itinéraire de pèlerinage. On passe sous la Sainte Tunique et c'est un beau moment aussi à vivre. Beaucoup de gens passent tous les jours. Et je vous propose une prière pour terminer. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fus dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus.
Et cher Père Guy-Emmanuel Cario, au nom des auditrices et auditeurs de Radio Maria France, il me reste à vous remercier pour votre participation à cette émission.
Merci et que Dieu vous bénisse.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Sanctuaire et Communauté grâce au Père Guy-Emmanuel Cario et à Bruno. Nous avons découvert la basilique Saint-Denis d'Argenteuil. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.